إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui, comme le frère qui a fait l'introduction, le frère Abdul Karim, il a expliqué qu'on va commencer donc la lecture d'une petite risale, encore une fois, de notre cher Saleh Al-Fawzan, encore une fois. Et le sujet aujourd'hui, c'est Asbab Najat al-Ummah, c'est-à-dire les causes pour sauver notre communauté, ou pour que notre communauté ait la réussite. Et donc le cheikh, il commence en disant Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فإن الله سبحانه وتعالى من حكمته أجرى الامتحان والابتلاء على بني آدم من أول الخلق إلى آخره، أولهم أبوهم آدم، وما جرى له من المحنة والابتلاء مع عدوه إبليس الذي حسده وتكبر عليه، هذا ماذا حصل لآدم وزوجه حواء عليها السلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى وفق الأبوين للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله عليهما. قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لشيخ الكمانس en disant que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, il a fait qu'il y ait des épreuves et des tests pour les fils d'Adam. Depuis la première des créatures jusqu'à la dernière, c'est-à-dire il y aura toujours des tests et des épreuves à travers l'histoire. Notre père, le premier, Adam, alayhi salam, et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé comme épreuve avec son ennemi, Iblis, la'anahullah? Iblis s'est rempli d'orgueil. Il a été jaloux de Adam, alayhi salam. Et donc, il y a eu une épreuve entre Adam et Iblis. Ensuite, bien entendu également, Hawa, la femme de Adam, qui est notre mère, la première femme. Et donc, ils ont mangé de l'arbre, ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, ils se sont repentis et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur repentance. Comme le cheikh l'explique ici, que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à nos deux premiers parents la repentance. Donc ils sont revenus à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme dans le verset 23 dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que tous les deux, Adam et Hawa, ont dit « Ô notre Seigneur, nous nous sommes fait de l'injustice à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas, et tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons du nombre des perdants. » Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur repentance, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit cela dans Surat Al-Baqarah, le verset 37, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a enseigné à Adam des paroles par lesquelles il pouvait se repentir et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur repentance, et certes Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui accepte la repentance et qui est miséricordieux. وكذلك توالت المحن على بني آدم عبر القرون بين الرسل وأتباعهم وبين أعدائهم من الكفار والمنافقين شياطين الإنس والجن. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ولكن الرسل وأتباعهم من المؤمنين أنجاهم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. الشيخ الذي ensuite que les épreuves se sont suivies les unes après les autres par la suite à travers les siècles entre les messagers entre les messagers et ceux qui les ont suivis et leurs ennemis parmi les koufars, parmi les munafiqin. Les munafiqin, c'est-à-dire ceux qui montrent qu'ils ont la foi et qui prétendent être des musulmans mais qui cachent la mécréance dans leur cœur. Et shayatin al-ins wal-jin, et les diables parmi les êtres humains et parmi les djinns. Comme on a expliqué, il y a des diables, et les diables c'est pas seulement parmi les djinns. Parmi les djinns, il y a des diables, et eux, ils viennent et ils nous suggèrent des choses. Ils viennent nous souffler des suggestions dans notre cœur. Mais il y a des shayatins parmi les êtres humains aussi. Et ces shayatins-là, ils sont souvent plus dangereux même que les shayatins parmi les djinns. Parce que contrairement aux djinns, ils ont des choses qu'ils peuvent faire plus que ce que les djinns peuvent faire. Les djinns se limitent uniquement à suggérer et à t'insouffler des suggestions mauvaises, tandis que les shayatins al-ins, ils implémentent le plan des shayatins parmi les djinns. Donc ils sont très dangereux également. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ça dans Surat al-An'am, dans le verset 112. Il dit: et c'est ainsi que nous avons fait pour chaque prophète un ennemi parmi les shayatins, parmi les diables, hommes et djinns. Donc c'est pour dire que ça fait partie des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a établies dans cette création, qu'il doit y avoir des gens qui défendent la vérité, qui défendent la foi, et qu'il doit y avoir également pour chacun d'entre eux des ennemis qui, lorsqu'ils appellent à la vérité, s'opposent à eux. Et c'est pour qu'il y ait la distinction entre ceux qui aiment la vérité et ceux qui sont les ennemis de la vérité, et ceux qui veulent choisir le camp du bien et le camp de la foi, et ceux qui veulent choisir le camp de la mécréance et de l'égarement. Donc ça, c'est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de cette manière qu'il met les hommes à l'épreuve pour les tester. Il mentionne également le verset 31 dans Surat al-Furqan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: et nous avons fait pour chaque prophète un ennemi parmi les criminels, parmi les mujrimin. Et ton Seigneur est suffisant comme guide et comme secoureur. ولكن الرسل وأتباعهم من المؤمنين أنجاهم الله. Allah subhanahu wa ta'ala, il vient toujours en aide et il donne toujours la victoire à la fin aux croyants. Même si les croyants passent par toutes sortes d'épreuves et toutes sortes de difficultés, à la fin, la victoire est toujours pour les mu'minines. À la fin, la victoire est toujours pour les croyants, pour ceux qui défendent la foi et la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 103 dans Surat Yunus: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Ça veut dire quoi? Il dit: puis par la suite, nous venons sauver, nous sauvons nos messagers et ceux qui ont cru. Et c'est ainsi que c'est un devoir pour Allah subhanahu wa ta'ala de sauver les croyants et d'aider et de venir en aide aux croyants. فغير الرسل لا ينجو إلا بالإيمان. ثم أكد ذلك بقوله تعالى: ك كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Et donc le cheikh il dit, à part les messagers, personne ne peut être sauvé excepté par la foi. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé cela en disant, c'est un devoir pour nous de sauver les croyants. Et dans un autre verset, dans Surat al-Rum, le verset 47, et c'est un devoir pour nous de venir au secours des croyants. وبهذا الوصف وصف الإيمان فإذا تمسك المؤمنون بإيمانهم وثبتوا على دينهم نجاهم الله سبحانه وتعالى من الفتن وجعل العاقبة لهم على مدار الأزمان إلى أن تقوم الساعة والدنيا دول والحق منصور ومنتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن هذه حكمة الله جل وعلا من بعد أن يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال تعالى كذلك لو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وقال تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Donc le cheikh il nous explique et il dit donc que la caractéristique de la foi, si les croyants s'accrochent réellement à leur foi et s'ils sont réellement fermes sur la religion, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va les sauver. Il va les épargner de toutes les difficultés, de toutes les fitnes, de toutes les épreuves. Et il va leur donner la bonne conclusion et la fin heureuse leur appartiendra. À travers les époques, à travers les siècles, à travers les temps, jusqu'à l'heure du jugement dernier, et ça restera toujours ainsi. Donc il ne faut pas s'imaginer que, hein, comme certaines personnes qui disent, ça y est, je suis devenu musulman, alhamdoulilah, je suis sauvé, et c'est fini, j'ai trouvé le droit chemin, c'est pas fini. Une fois que tu es rentré dans l'islam, c'est le début de l'épreuve maintenant qui commence. Il y a des gens qui étaient dans la bid'a, et qui étaient dans des groupes d'égarements, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a guidés à la sunna. Il dit, ça y est, alhamdoulilah, maintenant je suis sauvé. Maintenant j'ai trouvé la sunna, j'ai trouvé la vérité, alhamdoulilah. Mais c'est pas fini. Quand tu découvres la vérité et le droit chemin, c'est maintenant que l'épreuve commence. C'est maintenant que tu auras à faire preuve de sincérité et de fermeté dans ta foi et dans ta pratique, parce qu'il y aura des épreuves. Et c'est normal, parce que c'est pour ça qu'on a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas été créé pour venir sur la terre pour faire des vacances. On n'est pas venu sur terre pour s'amuser seulement. On est venu sur terre pour être mis à l'épreuve. Le paradis, c'est après la mort, c'est pas maintenant. Et donc il y en a des êtres humains qui voudraient vivre le paradis sur terre maintenant. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? Et donc, alhamdoulilah, ça fait partie de l'épreuve. La vérité, Allah subhanahu wa ta'ala la défend tout le temps. Et il y aura toujours des épreuves. Alors ne sois pas étonné de ça, parce que c'est la voie, c'est la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'il a établi les choses sur cette terre. C'est comme ça qu'il a établi les choses sur cette terre. Et c'est l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait partie de sa sagesse. Pour qu'il puisse distinguer les gens qui sont réellement des vrais croyants de ceux qui sont des hypocrites, de ceux qui montrent qu'ils sont des croyants mais qui cachent la mécréance dans leur cœur. Parce que si d'être un croyant ça consistait uniquement à dire avec la bouche « je crois », alors tout le monde pourrait dire qu'il est croyant et ce serait très facile. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous met à l'épreuve pour nous distinguer justement et pour voir qui sont réellement les vrais qui sont les gens qui prétendent. Et il mentionne le verset 2 et 3 dans Surat Al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, est-ce que les hommes croient que nous allons les laisser dire, nous croyons, et qu'ils ne seront pas mis à l'épreuve? certes nous avons mis à l'épreuve ceux qui sont venus avant eux pour que Allah puisse savoir ceux qui ont été sincères et pour qu'ils sachent ceux qui sont les menteurs. Wa qala ta'ala, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également, et si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait voulu, il se serait vengé de lui-même. Mais il veut vous mettre les uns contre les autres à l'épreuve. Si Allah subhanahu wa ta'ala voulait se venger des kuffars, des non-croyants, il pouvait les punir par lui-même. Il n'avait pas besoin des croyants pour combattre les non-croyants ou pour appeler les non-croyants à la foi. Il aurait pu le faire lui-même. Mais il a voulu nous mettre à l'épreuve les uns contre les autres pour nous éprouver dans notre foi. Et il mentionne un autre verset également. Dans Surat Muhammad, le verset 4 à 6, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah, Allah ne va pas traiter leurs actions en vain. Il va les guider et corriger leur état et les faire rentrer dans un paradis qu'il leur avait déjà fait connaître. C'est-à-dire qu'au sujet duquel il leur avait donné des connaissances et des informations. Et dans le verset 7, dans Surat Muhammad, Allah dit, ô vous qui avez cru, si vous venez à la défense de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et que vous défendez la vérité, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va vous secourir et il va vous donner la victoire, il va raffermir vos pas. Il va raffermir vos pas. فلا تعجب في هذه الأيام من تطاول الكفار والمنافقين على أهل الإيمان وأهل الإسلام لا تعجب هذه سنة الله في خلقه ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون لا تعجب إذا حصل للمسلمين في هذا الزمان من أعداء الله من الكفار باختلاف توجهاتهم ونحلهم ومن المنافقين والذين في قلوبهم مرض من الذين يدعون الإسلام إن حصل على المسلمين من هؤلاء ما ترونه وتسمعونه من الابتلاء والامتحان ولكن لا بد من الصبر لا بد من الاحتساب والعاقبة للمتقين. Donc le cheikh il dit, ne t'étonne pas, ne sois pas étonné si tu vois que de ces jours-ci il y a beaucoup de dépassements de la part des kuffars et des munafiqin contre les gens de la foi et que vous voyez que ils marchent sur les croyants et ils marchent sur les gens qui ont la foi et qui font partie des musulmans. Vous voyez ça, beaucoup d'injustices de la part des kuffars envers les musulmans de nos jours. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que ce soit comme ça. Ça fait partie de ses règles. Et donc il ne faut pas s'étonner pour qu'il puisse distinguer les bons des mauvais. Si les croyants, si les musulmans étaient toujours en force, et s'ils avaient toujours la victoire, et s'ils n'avaient jamais de défaite, tout le monde voudrait être musulman. Tout le monde voudrait dire, je suis un croyant. Je fais partie des musulmans. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il puisse justement nous tester et nous mettre à l'épreuve, il fait que parfois il y a des hauts et parfois il y a des bas. Parfois Allah subhanahu wa ta'ala, il nous élève quand on est sincère et quand on fait preuve de fermeté dans sa religion, il nous élève. Et quand on désobéit et quand on contredit ses ordres, eh bien, il nous punit et il nous rabaisse. Et tout ça, c'est pour nous éprouver. Mais le croyant, il reste toujours ferme. Peu importe la situation, il reste ferme. Donc, ne t'étonne pas si tu vois qu'à l'époque actuelle, il y a beaucoup de difficultés pour les musulmans, de la part des ennemis de l'islam, de la part des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la part des kuffars, peu importe leurs différentes religions, peu importe de quel groupe ils font partie. Les koufars, aujourd'hui c'est vrai, on retrouve de leur part beaucoup de difficultés. Et de la part des munafiqin également, de la part des gens qui se disent musulmans, mais tu les vois qui sont toujours en train de combattre l'islam, de critiquer des règles et des principes de la religion musulmane, ou d'appeler les musulmans à sortir de la religion ou à contredire les règles de la religion au nom de toutes sortes d'idéologies et de principes étrangers à l'islam, ils viennent et ils disent aux musulmans, il faut changer ci, il faut changer ça, il faut s'adapter, hein, il faut adapter l'islam au contexte social dans lequel on vit, hein, il faut, etc., etc. Donc, toutes sortes de slogans qu'ils vous lancent pour essayer de vous dire, la femme, elle doit cesser de se voiler, hein, il faut pas, nécessairement porter un vêtement ou une apparence islamique, ça c'est pas grave, l'islam c'est dans le cœur, la foi c'est dans le cœur. Vous voyez toujours des gens qui appellent à des choses comme ça, et après ils vous disent, il faut donner la liberté à tout le monde, c'est la liberté pour tous. Liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de croyance. Et donc il faut pas faire la da'wa, il faut pas inviter les koufars à l'islam. Ça c'est des idéologies que vous entendez de plus en plus de la part des munafiqines. Et donc il faut savoir les reconnaître par leurs discours et par leurs signes, comme le cheikh il nous indique ici. Et donc, il faut savoir que ces choses-là qu'on entend aujourd'hui, les gens qui critiquent les musulmans et l'islam aujourd'hui, eh bien, il faut savoir que ça fait partie des épreuves que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Mais il faut être patient, il faut avoir de l'endurance. Parce que si tu n'es pas patient et si tu n'as pas d'endurance, eh bien, tu ne seras pas capable de tenir. Et donc, le cheikh, il dit, il faut qu'on prenne toutes ces épreuves-là comme étant un test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et chercher la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette patience qu'on a. Et le cheikh, il dit, « وَقَالَ تَعَالَى لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans des versets du Coran que la bonne fin sera aux croyants. Dans le verset 128, dans Surat al-A'raf, Al-Aqibatu lil-Muttaqin. Dans le verset 186, dans Surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que vous allez être éprouvés dans vos biens et dans vos personnes. Allah va vous tester dans vos biens et dans vos personnes. Et vous allez entendre de la part des gens qui ont reçu le livre avant vous, et de la part des gens qui font le shirk, parmi les différents mushrikins, les différentes croyances, des gens qui adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez entendre de leur part beaucoup d'offenses, et beaucoup de nuisances, et beaucoup de mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a déjà avertis de ça. Ne soyez pas étonnés, ne soyez pas surpris quand vous entendez ces choses-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, si vous faites preuve de patience et d'endurance, alors ça fait partie de la fermeté dans la religion. Et il mentionne dans le verset 120 dans Surat Ali Imran, et si vous êtes endurant, et si vous avez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien de leurs ruses et de leurs complots ne pourront vous nuire. Allah subhanahu wa ta'ala, certes, est au courant de ce qu'ils font. Allah subhanahu wa ta'ala enveloppe de sa science tout ce que ces gens-là font comme complot et comme ruse contre les musulmans et contre l'islam. Donc ils pensent qu'ils sont en train de préparer des ruses et des complots contre les musulmans et contre l'islam, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît leurs ruses et il connaît leurs complots. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire tomber leurs ruses et leurs complots contre eux-mêmes. Et il va leur envoyer sur eux. Allah, donc le cheikh dit, « بهذا الشرط الصبر والثبات وعدم التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار والمنافقين مهما كلف الأمر ومهما بلغ الأمر لا بد من الثبات ولا بد من الصبر كما قال جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذه الآية بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. Donc le cheikh il nous explique, Et il nous dit qu'il y a des conditions, les conditions qu'on a mentionnées dans le verset, c'est d'avoir as-sabr et d'avoir at-taqwa, la crainte d'Allah et d'avoir la patience et la fermeté dans la religion, et de ne pas faire des compromis dans la religion pour quoi que ce soit, pour faire plaisir aux kuffars, pour faire plaisir aux munafiqin. Parce que c'est ça ce qu'ils veulent. Ils veulent que toi tu fasses des compromis dans ta religion, que tu transiges pour leur faire plaisir, que tu cesses de pratiquer certaines choses de ta religion, que tu cesses de pratiquer et d'exprimer et d'appeler à l'islam, que tu cesses d'ordonner le bien et d'interdire le mal, pour qu'ils soient satisfaits de toi, pour qu'ils soient contents de toi. Ils vont dire, ah, les bons musulmans c'est qui? C'est ceux qui ne sont pas très stricts dans la pratique religieuse, qui laissent passer des choses, qui se laissent aller, hein, qui ne vont pas dire à ceux qui font quelque chose de haram, ça c'est haram, et qui ne vont pas dire à ceux qui abandonnent les obligations, vous devez faire les obligations. Ils veulent des musulmans qui se laissent aller, qui font des compromis dans l'islam et dans la religion. Tandis que ceux qui sont musulmans et qui s'accrochent au Coran, et qui s'accrochent à la Sunna, et qui connaissent leur aqida, et qui s'arrêtent aux limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui invitent les autres à ça, ça ils disent non, ça c'est pas des bons musulmans, ça c'est des extrémistes. Mais comment ils peuvent connaître l'extrême alors qu'ils ne connaissent pas le juste milieu? Dans l'extrême, il y a toujours deux parties. Il y a ceux qui veulent faire trop, qui dépassent la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a ceux qui veulent enlever, qui font preuve de laxisme et qui veulent faire moins que ce qui est obligatoire. Donc nous, on doit se situer dans le juste milieu et de suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, sans exagérer et sans faire preuve de laxisme. Et c'est ça la modération, de suivre le Coran et la Sunna tel qu'il a été révélé. Et donc, le Cheikh il nous dit que lorsqu'on fait preuve de fermeté, c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner des dirigeants qui jugent selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui jugent selon la justice et la vérité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat As-Sajda, verset 24, et nous avons mis parmi eux des imams, des guides, qui guident selon notre commandement lorsqu'ils ont été patients et qui étaient convaincus de nos versets. Et donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a parlé de ça, et il a dit, c'est par l'endurance, la patience et la certitude et la conviction qu'on peut arriver à devenir des guides et des dirigeants dans cette religion, qui amènent les autres vers la vérité, avec patience et avec certitude et fermeté dans la croyance. Donc le cheikh il explique parmi les règles et les principes qui amènent à être sauvé, et que pour sauver cette umma, il nous dit at-tamassuk bi aqidati at-tawhid wa ifrad Allah jalla wa ala bil ibadah wa tajannub ash-shirk al-akbar wal asghar hadha huwa asl al-aqidah wa hadha asl an-najat min an-nar liman tamassaka bihi. Qala ta'ala الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومعنى آمنوا الإيمان هو التوحيد ويكون بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. وقوله ولم يلبسوا إيمانهم أي لم يخلطوا توحيدهم بظلم أي بشرك، لأن الشرك إذا خالط التوحيد أفسده فلا يستقيم التوحيد مع وجود الشرك أبدا، ضدان لا يجتمعان، فلا يجتمع توحيد وشرك أكبر، أما الأصغر فيمكن أن يجتمع مع الإيمان. Le Cheikh explique, il dit que parmi les causes qui vont faire en sorte que les musulmans vont être sauvés de toutes les épreuves, Inch'Allah, c'est s'ils s'accrochent à leur aqidah, comme on en a parlé déjà hier. Qu'ils s'accrochent à l'aqidah du tawhid et qu'ils se réunissent sur l'aqidah du tawhid et autour des imams et des et des responsables des musulmans qui s'accrochent au tawhid et à la sunna. Donc d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration et de s'écarter du shirk majeur et du shirk mineur. Et c'est ça la base de la croyance. Et c'est ça la base qui va faire en sorte qu'on va être sauvé de l'enfer si on s'accroche à notre croyance. Le shirk majeur, c'est d'offrir à Allah, à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, une forme d'adoration quelconque. On l'a expliqué hier. Et le shirk mineur, comme on l'a expliqué, c'est quand tu fais une adoration, mais que tu la fais avec l'intention de te faire voir ou de te faire entendre. Qu'est-ce que les ulama ont expliqué à shirk al-khafi, hein? Le shirk qui est caché, qui est dans le cœur. Parce que tu fais une action pour te faire voir ou te faire entendre. Le shirk majeur aussi, ça peut être, comme vous savez, il y a le tawhid. Il y a les trois catégories de tawhid. Tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma'i wa sifat. Ça, c'est les trois catégories de tawhid. Tawhid al-rububiyya, ça veut dire l'unicité d'Allah dans la souveraineté. C'est-à-dire que vous reconnaissez que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, que c'est le pourvoyeur, que c'est le maître de toutes choses, que c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Hein, et c'est lui qui peut t'amener un bien et t'éloigner d'un mal seulement. Il n'y a personne qui partage ce pouvoir-là avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le pouvoir qui appartient à Allah seul. Ensuite, il y a Tawhid al-Uluhiyya. On en a parlé hier. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. C'est-à-dire que toutes tes adorations doivent être vouées uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu ne dois offrir à autre que Allah aucune adoration. Toute ton adoration doit être pour Allah seul. Et ensuite, on a mentionné qu'il y a Tawhid al-Asma'i wa Sifat. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. C'est-à-dire que tu dois parler, lorsque tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu parles d'Allah selon ce qu'il s'est donné lui-même comme nom et comme attribut dans sa révélation, dans le Coran et dans la Sunna. Et tu affirmes ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même. Et tu nies ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est nié pour lui-même comme imperfection. Et tu prends qu'est-ce qu'il a dit tel qu'il l'a dit, sans essayer de chercher à imaginer le comment. Et sans demander le comment de ses noms et de ses attributs. Tu y crois et tu les affirmes sans faire de ressemblance entre le Créateur et la créature. Hein? Parce que c'est en faisant des ressemblances entre le Créateur et la créature que les gens sont tombés dans le shirk. Parce qu'il y a des hommes qui ont donné à Allah des attributs humains. Et il y a des gens qui ont donné aux êtres humains des attributs divins. Et ils ont commencé à adorer les hommes à cause de ça. Donc, les attributs d'Allah sont uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ne doit pas être décrit par aucune des attributs de faiblesse ou d'imperfection. On l'a décrit tel qu'il s'est décrit lui-même. Et on ne doit pas faire de ta'til, on ne doit pas nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il a dit à son sujet dans le Coran et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sunna, alors c'est des caractéristiques et des attributs de perfection. Et c'est la meilleure façon par laquelle on peut décrire Allah, c'est comment il s'est décrit lui-même. De même que comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de lui. Donc, dans ces catégories de tawhid qu'on vient de résumer là, eh bien, il y a des formes de shirk qui peuvent être pratiquées dans chacune de ces catégories-là et qu'on retrouve dans la plupart des religions sur la terre et dans la plupart des sectes qui prétendent appartenir à l'islam aujourd'hui. Dans Tawhid al-Rububiyya, vous avez des exemples de shirk dans cette catégorie-là de Tawhid chez les chrétiens, chez les juifs, chez les bouddhistes, chez les hindous et chez les athées. Hein? qui attribue à Allah subhanahu wa ta'ala des fils, comme les chrétiens disent que Dieu a un fils, ça fait partie du shirk, dans Ar-Rububiyya aussi, parce qu'ils disent qu'il va s'asseoir à sa droite pour juger les hommes à la fin des temps, hein, et qu'il peut il croit qu'il peut pardonner les péchés, hein. Il y a aussi du shirk dans Ar-Rububiyya chez des sectes, parmi les sectes qui prétendent appartenir à l'islam, comme par exemple les chiites, Rafida. Ils ont l'idée que leurs imams ont un pouvoir sur tous les atomes de la création et qu'ils connaissent l'invisible, hein, et qu'ils sont infaillibles dans leur connaissance à l'infini, hein. Et donc ça, c'est des exemples de shirk dans Ar-Rububiyya également. Chez certaines turuq soufiyya également, vous trouvez des gens qui font ce genre de shirk dans cette catégorie de tawhid aussi. Ils ont des hommes qu'ils appellent Rijalul Ghayb. Et ils ont également des hommes qu'ils appellent Al-Aqtab, l'épaule, ou Al-Awras, Al-Ghous. Ils disent que celui-là, il a le pouvoir de la création, sur la création. Il contrôle tout dans la création. Et quand tu as un malheur, tu dois crier son nom pour demander au secours. C'est lui qui va venir t'aider. Hein? Donc ça, c'est des exemples de shirk dans Ar-Rububiyya, parmi des groupes même de certains qui se disent musulmans. Et ça, c'est des formes de shirk majeurs qui font que quelqu'un quitte l'islam s'il croit en ces choses-là. D'accord? Il y a d'autres catégories de shirk également dans Al-Ibada. Ça, il y en a beaucoup. La plupart des catégories de shirk qui sont pratiquées parmi les gens aujourd'hui sont dans cette catégorie-là. Parce que la plupart des hommes, ils reconnaissent la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils reconnaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le maître de toutes choses, que le créateur. Mais quand ils adorent d'autres. Ils prennent des saints, des intermédiaires, des tombes, des morts, ils demandent leur aide, ils les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a même qui prient à leurs ancêtres, hein, leurs grands-parents qui sont morts, ils leur font des prières, ils leur demandent de les aider, de les protéger de certaines choses, de mal. Il y a des gens qui ont ces croyances-là, mais les morts, ils ne peuvent pas nous venir en aide. Le seul qui peut te venir en aide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui peut te protéger, qui peut te nuire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul créateur, c'est Allah. Et donc, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Et dans Tawhid al-Asma wa Sifat, il y a beaucoup de sortes de shirk également. Du fait que vous trouvez certains qui croient qu'il y a des hommes qui connaissent l'invisible, qui connaissent l'avenir. Il y en a qui croient en des sorciers, il y en a qui croient en des magiciens, il y en a qui croient en des voyants, en des médiums, des gens qui prétendent connaître le futur, qui peuvent t'informer des choses qui sont cachées. Il y en a qui croient en l'horoscope, qui croient que les étoiles, la façon dont elles se placent dans le ciel, ils peuvent te dire ton avenir avec des choses de ce genre. Et ces gens-là, ils prennent de l'argent pour ça. Lorsque tu vas les voir, ils viennent et ils prennent de l'argent en échange, soi-disant, de t'informer des choses de l'avenir. Tout ça, ça fait partie du shirk, akbar, majeur, de croire que quelqu'un peut savoir l'avenir, ou savoir le rêve. Et donc, ceux qui prétendent avoir la connaissance de l'invisible sont des mushrikines et des kuffars. Et ceux qui croient en ceux qui prétendent ça, sont eux aussi des kuffars et des mushrikines. Parce que c'est une forme de shirk de s'attribuer une des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alimul Ghayb, c'est Allah seul. Subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit de donner cet attribut-là à une créature. Et il y en a parmi les hommes aujourd'hui qui s'attribuent cette caractéristique-là et cet attribut-là. Et donc c'est très important de bien connaître notre tawhid, de bien apprendre notre tawhid et les catégories de tawhid. Et de savoir également les catégories de shirk qui correspondent à ces différentes catégories-là. Il y a également des catégories de shirk dans le fait de rendre halal ce qui est haram. et d'obéir à quelqu'un dans le fait qu'il rende haram ce qui est halal ou halal ce qui est haram. Hein? Si quelqu'un, par exemple, dit aux gens que c'est permis de boire de l'alcool, et toi tu crois que c'est permis de le faire toi aussi, eh bien ça c'est une forme de shirk parce qu'il a légiféré, il a rendu halal une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré haram. Donc ça, ça fait partie de du tawhid aussi, de croire que le seul qui a le droit de légiférer, le seul qui a le droit de rendre haram ou de rendre halal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un écrit avec sa main une loi qui rend halal quelque chose que Allah a rendu haram, toi tu n'as pas le droit de croire que cette chose-là, elle est halal. Si quelqu'un écrit que le zina c'est halal ou l'alcool c'est halal, toi dans ton cœur tu n'as pas le droit de croire que ça c'est halal. Même si celui qui te le dit se dit savant de l'islam. Si quelqu'un te dit par exemple, le hijab c'est pas obligatoire dans l'islam, tu n'as pas le droit de croire en ce qu'il dit, puisque les preuves du Coran nous montrent le contraire. Le seul qui a le droit de déclarer quelque chose légal ou illégal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi, ça rentre dans le tawhid, et c'est important de faire attention. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné ça à propos des gens du livre. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans le Coran, justement, « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ». Ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand un des sahaba qui était chrétien, qui s'était converti à l'islam, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ce verset dans surat al-Tawbah, il lui a dit, ô messager d'Allah, on les adorait pas. Il a dit, n'est-ce pas qu'ils rendaient halal ce qui était haram, et vous les suiviez là-dedans, et ils rendaient haram ce qui est halal, et vous les suiviez. Il a dit oui, certes. Alors, ça, c'était votre adoration pour eux. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'adoration. D'obéir à des hommes dans le fait de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal. Donc, ça, c'est très dangereux aussi. Et ça, c'est quelque chose à laquelle tous les musulmans d'aujourd'hui ont à faire face. Et c'est important de bien comprendre cette question. Tout ça pour vous faire comprendre en réalité que de comprendre les aspects du tawhid, c'est fondamental à notre époque. Et le chef, il mentionne les versets qui dit « Ceux qui ont eu la foi et qui n'ont pas recouvert leur foi d'injustice, ceux-là auront la sécurité et ils seront bien guidés. » Dans le verset 82, dans Surat al-An'am. Et le chef, il dit la signification de « ceux qui ont cru », c'est-à-dire « ceux qui ont cru » c'est-à-dire le tawhid, qui ont été sur le tawhid. Ceux qui ont été sur le tawhid et qui ont respecté les règles et les principes du tawhid, c'est-à-dire qu'ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala seul et ils ont cessé d'adorer tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'ont pas recouvert leur foi d'injustice. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mélangé leur tawhid avec de l'injustice, c'est-à-dire ici, du shirk. Ils n'ont pas mis de shirk dans leur tawhid. Ils n'ont pas fait d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leur tawhid. Leur tawhid est resté pur. Il n'a pas été corrompu. Donc, le tawhid, s'il est mélangé avec du shirk, il n'est pas valable. Il n'est pas bon. Et on ne peut pas réunir le shirk et le tawhid ensemble. On parle du shirk majeur. Parce que le shirk mineur, il se peut qu'un croyant commette certains actes de shirk mineur. Hein? Il se peut qu'un croyant commette quelques actes de shirk mineur, mais ça, ça ne détruit pas sa foi en entier. Ça détruit uniquement l'action qu'il a fait et qui contient du shirk. Le shirk, il dit, « فَالظُّلْمُ هُنَا هُوَ الشِّرْكِ كَمَا فَسَّرَهُ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لما أشكلت هذه الآية على الصحابة قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال إنه ليس بالذي تعنون إنه الشرك ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم هنا في هذه الآية الشرك، فمن سلم من الشرك حصل له الأمان في الدنيا والآخرة، وحصلت له الهداية بأن يكون على الحق. Le Cheikh il dit, donc l'injustice dont on parle dans ce verset, c'est le shirk, c'est le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires dans l'adoration, ou d'offrir à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui l'a expliqué de cette manière, dans un hadith. Donc, lorsque les sahabas ont entendu ce verset-là, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ils trouvaient que c'était compliqué à comprendre. Alors, ils ont dit au messager d'Allah, « Ô messager d'Allah, lequel d'entre nous n'a pas fait de l'injustice envers lui-même? Lequel d'entre nous n'a pas fait du tort à lui-même ?» Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué. Et il leur a dit, « Non, ce n'est pas ce que vous avez compris. Ce n'est pas ça que ça veut dire l'injustice dans ce verset-là. L'injustice dont on parle dans ce verset, c'est le shirk. C'est le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Comme il dit, n'avez-vous pas entendu la parole du serviteur pieux, Luqman, lorsqu'il a dit à son fils, « Oh mon fils, ne fais pas de shirk avec Allah, le shirk est certes la plus grande des injustices. « Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim » Donc qu'est-ce qu'on veut dire ici dans ce verset par l'injustice, c'est le shirk. Donc celui qui s'est sauvé lui-même du shirk, alors il est en sécurité dans cette vie d'ici-bas, de même que dans l'au-delà. Et il a atteint la guidance, parce qu'il est sur la vérité. Le Cheikh il dit ensuite, « قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا بهذا الشرط لا تحصل هذه المطالب العظيمة إلا بهذا الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا إذا حصل هذا الشرط عبادة الله وترك عبادة ما سواه حصل على هذه الوعود الكريمة من الله سبحانه وتعالى ويستخلفهم في الأرض يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا هذه مقاصد عظيمة لا تحصل إلا بالتوحيد وهو عبادة الله جل وعلا وترك عبادة ما سواه وكذلك تجنب البدع لأن البدع بريد الشرك. Donc le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait une promesse dans le Coran. Et la promesse en question c'est dans le verset 55 dans Surat An-Nur. Il dit, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres qu'il allait leur donner la succession sur la terre, comme il l'a donné à ceux qui étaient avant eux, et qu'il allait donner la position et le pouvoir à leur religion qu'il a agréée pour eux, c'est-à-dire l'islam, et qu'il allait leur changer leur situation de crainte en situation de sécurité et de paix. Mais la condition de cette promesse, c'est la suivante, « يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا » Ils m'adorent et ils n'associent rien avec moi. Donc ça c'est la condition. « وَبِهَذَا الشَّرْطِ لَا يَحْصُلُ هَذِهِ الْمَطَالِبِ » بِهَذَا الشَّرْطِ لَا يَحْصُلُ هَذِهِ الْمَطَالِبِ الْعَظِيمَ إِلَّا بِهَذَا الشَّرْطِ » Vous n'allez pas atteindre cette promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté si vous avez respecté cette condition, il m'adore et il n'associe rien avec moi. Et si vous avez respecté cette condition, c'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'abandonner tout ce qui est adoré en dehors de lui, alors vous allez, si vous respectez cette condition, alors vous allez avoir cette noble et généreuse promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va vous donner la succession sur la terre, comme il l'a donné à ceux qui étaient avant nous. Et il va mettre cette religion, notre religion, la religion qu'il a agréée, il va la donner, il va la mettre en place de force et de position de supériorité. Et il va changer votre situation de crainte en situation de sécurité et de paix. Donc le cheikh il dit tout ça, ce sont des grands objectifs qui ne peuvent arriver excepté si on a compris et établi le tawhid. Et c'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'adorer et d'abandonner l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala et de s'écarter également des innovations, des bid'ahs. Parce que les bid'ahs, c'est disons le messager de la mécréance. C'est quelque chose qui t'amène à la mécréance de faire des innovations. Petit à petit, quand quelqu'un tombe dans les innovations, à la longue, il risque de tomber dans la mécréance. Et c'est là, ça c'est la conclusion, si quelqu'un se laisse aller dans les innovations. Donc, on parle de tawhid, et les gens, parfois parmi les musulmans, quand on leur parle de tawhid et quand on leur parle de shirk, ils se demandent, mais pourquoi on parle de tawhid? Et pourquoi on parle de shirk? On est déjà musulmans. On dit la ilaha illallah tous les jours. Et donc pourquoi on a besoin de toujours parler de ce sujet-là encore et encore? Eh bien, dites-vous une chose, c'est justement que parce que les gens qui étaient là avant nous, eux aussi, ils pensaient être sur le tawhid, jusqu'à ce qu'ils s'égarent. Et qu'est-ce qui est arrivé au peuple qui était là avant nous, qui se sont égarés du tawhid? Ça peut également ça nous arriver. Et la preuve, il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui se sont égarés. Hein? Donc ça c'est la preuve. Et le cheikh il dit, donc il faut non seulement s'écarter du shirk, mais aussi des innovations. Le cheikh il dit, وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فكما نتجنب الشرك نتجنب البدع فنتجنب الشرك وإفراد الله بالعبادة هو معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله ترك البدع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءنا ببيان الحق والذي نحن والدين هو الذي جاءنا ببيان الحق والدين فنحن نعبد الله على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ما ترك شيئا خيرا إلا بينه لنا وما ترك شرا إلا بينه لنا عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh il nous dit que il faut également s'écarter des innovations. Il y en a des gens, par exemple, qui font la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a qui disent, il n'y a rien de mal dans cette célébration, on fait juste réciter des chansons et faire de la nourriture et puis des choses de ce genre. Et donc, il y en a qui s'imaginent qu'à cause de ça, c'est pas mauvais, c'est juste, il y en a qui disent, comme on a dit hier, que c'est une bonne innovation, une bonne bid'ah. Et comme on a expliqué hier, il n'y a pas de bonnes bid'ahs. Si c'était bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été le premier à la faire. Et les sahaba aussi l'auraient fait après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba radiallahu anhum, ils n'ont pas célébré la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, le premier des khulafa, le meilleur de cette umma après les prophètes, il n'a jamais célébré al-mawlid. De même que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il ne l'a jamais fait. Et Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, il ne l'a jamais fait. De même que Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, et Al-Ashra, Al-Mubashirin, Bil-Jannah, les dix qui ont été promis au paradis ne l'ont jamais fait. De même que les autres parmi les Sahaba. Et parmi les Tabi'in, on ne retrouve aucun d'entre eux qui a célébré la naissance du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De même que parmi les imams, parmi les quatre imams des mazahib qui sont les plus célèbres dans la Umma, Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmad radiallahu anhum, rahimahumullah, aucun d'entre eux n'a jamais célébré la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De même que les grands ulama de hadith, comme l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Abu Daoud, الإمام النسائي، الإمام الترمذي، الإمام ابن ماجة، الإمام الدارقطني، et les autres imams d'Ahl al-Sunna. On retrouve aucun d'entre eux qui a jamais célébré cette soi-disant célébration. Donc qui l'a amené cette soi-disant célébration, cette soi-disant pratique que les gens pratiquent partout à travers le monde aujourd'hui? Est-ce que c'est des gens qui sont venus dans les premiers siècles de l'islam? Non. Et les historiens, ils disent que c'est apparu durant la période des Fatimiyyah, parmi les Fatimiyyah en Égypte. Je ne sais pas si vous êtes au courant de qui étaient les Fatimiyyah. Les Fatimiyyah, c'est des gens qui font partie de la secte des Ismaélites. Je ne sais pas, vous avez entendu parler peut-être des Aga Khan. Il y a un homme maintenant qui s'appelle Aga Khan, considéré comme étant le chef de ces gens-là aujourd'hui. Chaque année, on lui donne son poids en or le jour de son anniversaire. Aujourd'hui, ils n'ont plus de pouvoir politique. Toutefois, à l'époque des Fatimiyyah, c'était eux qui dirigeaient. Et ces gens-là, ils ne croient ni au Coran, ni à la Sunna, ni à Allah, ni au messager, ni à la Salat, ni à la Zakat, ni au Hajj, rien. Eux, ces gens-là disent que non, tout ça c'est pour les musulmans ordinaires. Nous, on a une autre connaissance secrète que seuls les initiés peuvent connaître. Et quand on connaît ces secrets-là, on n'a plus besoin de prier, on n'a plus besoin de jeûner, on n'a plus besoin de faire les obligations ou de s'abstenir des interdictions. Hein? Et ils disent quoi? Ils disent que les prophètes, c'est seulement des hommes intelligents, des philosophes. Ils deviennent prophètes par leur intelligence, pas par une révélation divine. Et ils ont inventé ces histoires de paradis et d'enfer pour contrôler les gens. Mais au fond d'eux, ils disaient que c'est pas vrai. Ça, c'est la croyance des Ismaélites. Ce sont des anadépas, des hérétiques. Et ces gens-là ont été parmi les pires ennemis de l'islam. Et c'est eux qui ont commencé à répandre à travers le monde musulman cette croyance-là de la fête, de la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour imiter les chrétiens qui fêtaient Noël, qui fêtaient la naissance de Jésus, alayhi salam. Donc pour imiter les chrétiens, ils ont dit, nous aussi, étant donné que les chrétiens fêtent la naissance de leur prophète, ou eux ils croient que c'est leur Dieu, et nous on sait que c'est le prophète d'Allah, eh bien ils ont dit, nous aussi on va faire la même chose avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils ont inventé ces célébrations, cette célébration-là. Et c'est eux qui ont répandu à travers les musulmans les dômes et les mausolées que les gens ont construits par-dessus les tombes des saints. Ça n'existait pas auparavant parmi les musulmans. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit les gens qui faisaient ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La'natullahi ala al-yahoudi wa al-nasara ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid » que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration et de prière, comme des mosquées. C'est là qu'ils vont adorer, auprès de leurs tombes. Donc il y a ces gens-là parmi les Ismaïliyas et d'autres aussi parmi les Shias, et bien c'est eux qui ont propagé cette pratique de faire des tombes, des mausolées et des mosquées par-dessus les tombes des hommes pieux. Et cette pratique-là a été héritée par les soufiyines et elle s'est propagée partout dans les différents pays musulmans par la suite. Et donc vous voyez maintenant que ces gens-là pratiquent ces choses-là à travers les pays musulmans. Et en apparence, les gens qui pensent qu'il n'y a pas de mal à faire ça, déjà c'est la bid'a, c'est le plus grand mal. Parce que la religion elle est complète et celui qui pratique des innovations, c'est comme s'il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas bien transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est en train d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala et d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et non seulement ça, yani, dans ces célébrations-là, il y a d'autres choses qui sont derrière. Il y a des paroles qui sont prononcées dans ces chansons-là que les gens répètent, comme dans Al-Burda, Al-Busayri, et dans d'autres poèmes également, des exagérations au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam par des attributs et des caractéristiques divines. On lui attribue la connaissance de l'invisible et de la connaissance de Allah al-Mahfouz. Hein? وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم il répète ça pendant leur fête et leur célébration. Il pense que le monde a été créé pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que parmi la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a dans cette connaissance-là la connaissance de qu'est-ce qui est dans les tables préservées. Qu'est-ce qu'Allah a écrit la destinée du monde, il croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cette connaissance-là. Et cette connaissance-là, c'est la connaissance de l'invisible que seul Allah subhanahu wa ta'ala possède. Et qu'on n'a pas le droit d'attribuer à aucun être humain, même si c'est le plus proche des messagers d'Allah, le plus élevé des messagers. Donc ça, c'est des exemples d'exagération, de relou qu'on appelle à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans parler des autres choses également qui sont pratiquées dans ces célébrations-là, qui font partie des choses qui sont interdites en islam. D'accord? Donc ça, c'est des exemples de bid'a et d'innovation qui sont parmi les innovations les plus célèbres. Et vous allez trouver que les gens qui font la promotion de ces innovations-là cachent derrière plein d'autres innovations. Parce que la plupart du temps, ce sont des soufis et ils appartiennent à des turuq. Et dans ces turuq, il y a toutes sortes de croyances et de pratiques qui sont contraires à la sunna et contraires à l'islam, qui n'ont aucune référence dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des choses qui nous rappellent que c'est des dangers. Et si vous voulez savoir d'autres exemples de bid'a, eh bien il y a les bid'a des khawarij, ceux qui disent que les musulmans, s'ils font des grands péchés, ils deviennent des kuffars. Donc ils déclarent mécréants toute personne qui fait des grands péchés. Et ils se justifient le fait de se rebeller contre les dirigeants musulmans. Ils croient que lorsqu'ils voient un dirigeant musulman qui fait des péchés, ils disent que c'est permis de se rebeller contre lui. Ça, c'est la voie des khawarij. Et on en voit actuellement dans le monde qui font des attentats terroristes et qui tuent des gens innocents au nom de l'islam. Ça, c'est des descendants de ces gens-là. Ils suivent la même croyance que eux. Ceux qui, à l'époque de Ali ibn Abi Talib, sont sortis contre Ali et qui égorgeaient les sahaba en croyant qu'ils se rapprochaient à Allah subhanahu wa ta'ala en les égorgeant. Ils croyaient que les sahaba étaient devenus kuffars. Et donc ils se permettaient de les tuer et de les égorger. Au nom de l'islam, ils croyaient que c'était le djihad qu'ils faisaient. Ils pensaient qu'ils avaient mieux compris l'islam que les sahaba. Et qu'ils pouvaient mieux comprendre le Coran que les sahaba. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti à leur sujet. Il a dit qu'ils récitent le Coran, mais ça ne dépasse pas leur gorge. Ça ne va pas jusque dans leur cœur parce qu'ils n'ont aucune compréhension de ce qu'ils lisent. Et ça, souvent, on retrouve certaines de ces caractéristiques-là chez des jeunes qui apprennent l'islam dans les livres, qui pensent qu'ils peuvent comprendre la religion tout seuls, et après ils pensent qu'ils connaissent mieux l'islam que les imams et que les savants de la religion musulmane aujourd'hui, et qui commencent à déclarer les dirigeants musulmans de mécréants, et qui appellent à la rébellion et à la révolte, et qui font des attentats ou des meurtres des innocents au nom de l'islam. Ça, c'est des exemples de bid'a et d'innovation. Il y a la bid'a des qadariya, ceux qui nient la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des exemples de la bid'a des shi'a, qui préfèrent Ali ibn Abi Talib par-dessus Abu Bakr, par-dessus Omar, par-dessus Uthman, radiyallahu anhum, et qui insultent Abu Bakr et Omar et Uthman, et qui les déclare kuffar et qui déclare tous les sahaba kuffar parce qu'ils disent que ceux qui n'ont pas donné le khilaf à Ali sont des kuffar. Et donc ils déclarent tous les sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam kuffar. Hein? Ça c'est une bid'a aussi qui a amené des divisions entre les musulmans. Et il y a aussi la bid'a des jahmiyyah qui est apparue à une certaine époque dans la umma et qui ont nié les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? À l'époque de Al-Ma'moun. Donc ça c'est une autre fitna qui était apparue, c'est une autre bid'a. Il y a la bid'a des murji'a, il y a la bid'a d'autres sectes également, les soufis et d'autres. Donc, quand on dit Ahl-Sunnah, Wal-Jama'a, on parle des gens qui ont suivi la aqidah des sahaba, et des tabi'in, et des tabi'in, et qui sont restés accrochés à la aqidah des premiers musulmans. Et qui se sont écartés de toutes ces innovations-là. Tous les groupes et les sectes et les innovations qu'on vient de mentionner ont été réfutées quand elles sont apparues à l'époque des Sahaba. Les premiers qui ont inventé ces sectes ont été réfutés par les Sahaba qui étaient encore en vie. Et par la suite, par les Tabi'in. Et par la suite, par les Tabi'in. Les ulama de l'islam les ont opposés et les ont réfutés. Et ont défendu l'islam. Et ont gardé l'islam propre contre toutes ces formes d'innovation et d'égarement qui sont entrées parmi les musulmans dans la Ummah à travers les siècles. Donc ils se sont tenus comme défenseurs du Coran et défenseurs de la Sunna contre les innovations. Et c'est ça le danger de l'innovation, mes frères et mes sœurs. C'est pas juste de dire, hein, comme certains s'imaginent, non, il y a des bonnes bid'ahs. Où sont les bonnes bid'ahs? Toutes les bid'ahs n'ont fait qu'amener de la division dans la Umma. Et des sectes et du mal. Et donc, il y a des gens, bon, il faut faire comprendre aux musulmans aujourd'hui, souvent on dit sunni. Hein? Ici, alhamdoulilah, j'ai remarqué, vous dites les mosquées sunnites, hein? Les mosquées sunnites. Mais dans d'autres pays musulmans, eh ben, quand ils disent mosquées sunnites, ça peut être, yani, pas nécessairement des gens qui sont sur le Coran et la Sunna. Il y a des soufis qui se disent sunnites aussi dans d'autres pays musulmans. Et il y a des gens qui suivent d'autres croyances qui se disent sunnites. D'accord? Et donc, c'est pour ça que les ulama souvent ils vont distinguer et clarifier en disant qu'ils sont sur la croyance des salafs, ou qu'ils sont salafis, ou qu'ils sont des salafiyoun, pour expliquer qu'ils sont des sunnis, mais pas comme ces gens-là qui se disent sunnis, parce qu'il y en a qui pensent que sunnis c'est par opposition aux shi'a. Hein? Vous avez, il y a des gens qui pensent qu'il y a deux sectes dans l'islam, les sunnites et les chiites. Donc si tu n'es pas chiite, automatiquement tu es sunnite. Mais parmi ceux qui sont considérés comme étant des sunnites, il y a les soufis, il y a les khawarij, il y a d'autres groupes qui sont considérés comme étant des sunnites. Mais ils n'ont rien à voir avec la sunna. Hein? C'est pour ça qu'un des imams d'Ahl Sunna, si je ne me trompe pas, c'est Abu Bakr ibn Ayyash. Lorsqu'on lui a demandé, « Man est sunni ?» Il a dit, « As-sunni huwa alladhi, idha dhukira indahu al-ahwa, لم يغضب لي شيء منها أو لم يتعصب لي شيء منها. Donc on lui a demandé qui est le vrai sunni. Il a dit le vrai sunni c'est celui que quand on mentionne devant lui les groupes de bid'a et les sectes et les égarés et qu'on critique ces sectes et ces groupes là, il ne se fâche pour aucune d'entre elles. Il ne se met en colère pour aucune d'entre elles. Et c'est une des manières qu'on peut distinguer les gens qui sont sur la sunna. Lorsque tu es devant les gens de la sunna et que tu parles de la sunna et que tu critiques les gens de bid'a, ils ne se mettent pas en colère. Ils sont contents parce qu'ils voient que tu critiques les innovations. Celui qui se fâche quand tu critiques les innovations, c'est ceux-là qui sont dans les gens, qui font partie des gens de bid'a. Et c'est ceux-là qui ne sont pas avec la sunna. Et donc ça, c'est un des signes distinctifs. Hein? Et donc, alhamdulillah. Donc ça, c'est pour vous faire comprendre les différentes bid'ahs et le danger des innovations. Donc le cheikh il dit, ensuite il continue son explication, prenez garde aux choses qui sont nouvellement inventées dans la religion, parce que chaque nouvelle invention dans la religion est une bid'ah, c'est une innovation, et chaque innovation est un égarement. Et dans une autre narration, et chaque égarement mène à l'enfer. Donc, comme on s'écarte du shirk, on doit s'écarter des innovations. On s'écarte du shirk en unifiant Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration. Et ça, c'est la signification de la ilaha illallah. C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et la signification de Muhammad Rasulullah, c'est d'abandonner les bid'ahs. C'est pour ça que vous voyez que les ulama d'Ahlus Sunnah, ils mettent toujours la concentration sur les aspects du tawhid et de la sunna. Et le contraire du tawhid, c'est le shirk, et le contraire de la sunna, c'est la bid'ah. C'est pour ça que quand on dit Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens de la sunna et de l'unité, par opposition à Ahlul Bid'ahi wal Furqa. Les gens de l'innovation et de la division. Parce que par nature et par définition, la bid'a amène la division. Et on les appelle aussi, les gens de bid'a, ahlul ahwa. Les gens des passions. les gens qui suivent leurs désirs et qui suivent leurs passions. Parce qu'à la base de la bid'a, il n'y a rien d'autre que la passion, puisqu'ils n'ont pas de preuves. Donc ils s'accrochent à leurs passions et à leurs désirs. Et dans les groupes contemporains aujourd'hui, pardon, dans les groupes contemporains aujourd'hui, qui prétendent parfois faire la da'wa ou appeler à l'islam, on retrouve des individus qui font partie de toutes ces tendances. Et il y a des groupes qui ne veulent pas qu'on distingue entre les différents groupes et les différentes sectes, et qu'on clarifie pour les musulmans les divergences et les divisions et les égarements de certaines sectes et de certains individus. Parce qu'ils veulent garder les gens dans l'ignorance pour les contrôler et les garder comme un mélange, un gros mélange. Ils disent, si on distingue entre les gens, ça va diviser. C'est pas vrai. Les gens viennent vers les gens de Ahl Sunnah. Ces gens-là, ils viennent vers les gens de Ahl Sunnah. Ils disent, vous divisez les musulmans. Et nous, on leur dit, les musulmans sont déjà divisés. Et nous, au contraire, on veut pas les diviser. On veut les réunir sur la vérité. Et ça, ça vous dérange. Pourquoi? Parce que ce sont des groupes politiques. Et ces groupes politiques, quand ils veulent rassembler le plus grand nombre de votes, il faut qu'ils fassent plaisir à tout le monde. Ils veulent acheter tout le monde et faire plaisir à tout le monde. Et donc, s'ils commencent à suivre l'exemple des prophètes et des messagers dans la da'wa, ils ne vont pas avoir beaucoup de votes. Ils ne vont pas avoir beaucoup d'alliés. Ils ne vont pas avoir beaucoup de supporters. Alors, ils sont obligés d'utiliser cette méthode d'hypocrisie. De dire, on va pas parler des groupes, on va pas parler des tendances, on va pas parler des égarements. On va laisser tout le monde faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut. Comme ça, on va dire, on est tous musulmans, peu importe notre croyance. Et ils vont tous voter pour nous, puis après on va prendre le pouvoir. Et ça, c'est l'hypocrisie, c'est pas la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, on suit l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on clarifie la vérité pour les musulmans. Et on leur explique le danger de l'égarement des innovations et des différentes tendances qui peuvent faire tomber les gens dans l'égarement et dans l'erreur. Et on ne laisse pas la chance aux gens qui suivent l'innovation de propager leurs innovations parmi les musulmans. On avertit contre eux et on donne la nasiha aux musulmans pour leur bien, pour éviter qu'ils tombent dans l'erreur et dans les différentes tendances qui mènent à l'enfer. Désolé. Donc le cheikh il dit, on adore donc Allah subhanahu wa ta'ala selon la méthode et la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'a pas laissé rien de bien sans le clarifier, et il n'a pas laissé rien de mal sans nous avertir contre ce mal. Il a tout clarifié. Le bien, il n'a rien laissé du bien, il nous a tout clarifié. Le mal, il n'a rien laissé du mal, il nous a averti contre tout le mal. Et le cheikh il dit, فَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ نَجَاتِ الْأُمَّةِ تَمَسُّكِهَا بِالْعَقِيدَةِ وَتَمَسُّكِهَا بِالتَّوْحِيدِ وَتَجَنُّبِهَا لِلشِّرْكِ وَتَجَنُّبِهَا لِلْبِدَعِ وَالْمُحْدَثَاتِ فَأَصْلُ الْأَسْبَابِ الْمَنْجِيَّةِ من الفتن هو التوحيد وتجنب الشرك والبدع والمحدثات في الدين. Le cheikh il dit que la base pour sauver la umma, pour que la umma soit sauvée, c'est qu'elle s'accroche à la aqida et qu'elle s'accroche au tawhid et qu'elle s'écarte du shirk et qu'elle s'écarte des innovations et des choses inventées dans la religion. Et c'est ça la base qui fait en sorte que les musulmans vont être sauvés de toutes les épreuves et de toutes les fitanes. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont rester unis, ensemble, réunis sur la vérité, sur le Coran et sur la Sunna. Toute autre tentative d'unir les musulmans, comme on l'a expliqué hier, ça va échouer. Hein? Et le cheikh il dit, ensuite, وَكَذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ نَجَاتِ الْأُمَّةِ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر وهو من أعظم أسباب نجاة الأمة. فما دام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودين فإن الأمة تنجو. وإذا تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هلكت كما ذكره الله لنا في قصة بني إسرائيل لما اعتدوا في السبت نهاهم الصلحاء عن اعتدائهم فلم يمتثلوا وسكت جماعة من الصلحاء لم ينهوهم بل قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم يتقون ولعلهم يتقون وقال الله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Donc, le cheikh nous donne un autre exemple aussi, un autre principe par lequel on peut être sauvé et que cette umma peut avoir le succès. C'est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et ça aussi, ça inclut le tawhid aussi. Parce que le plus grand ma'rouf, le plus grand bien, c'est le tawhid. Et le plus grand munkar, c'est le shirk. Donc la priorité, c'est toujours d'ordonner le tawhid et d'interdire le shirk. Hein? Et par la suite, les autres choses également. Donc le cheikh, il dit parmi les plus grandes causes qui vont amener que la Ummah va être sauvée, c'est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et tant qu'il y a ça dans la Ummah, alors la Ummah sera sauvée, Inch'Allah. Et si la Ummah abandonne l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, alors la Ummah va périr. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans l'histoire de Bani Israël lorsqu'ils ont transgressé le sabbat. Il y avait des hommes pieux parmi eux qui leur interdisaient de transgresser et de respecter ils leur ordonnaient de respecter le sabbat. Tandis qu'il y a un autre groupe parmi les hommes pieux qui leur disait qui ne disait rien, qui ne leur interdisait pas de cesser de transgresser le sabbat. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 164 dans Surat Al-A'raf que c'est, comme on a dit, il y avait les deux groupes des hommes pieux, ceux qui ordonnaient le bien et qui interdisaient le mal, et l'autre groupe parmi les hommes pieux qui ne disaient rien, ils se taisaient. Et eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, pourquoi vous avertissez, ou pourquoi vous exhortez un peuple que Allah de toute façon va punir et va châtier d'un dur châtiment? Et les hommes pieux qui ordonnaient le bien et qui interdisaient le mal ont répondu en disant, « Ma'ziratan ila rabbikum » C'est pour avoir une excuse auprès de notre Seigneur. Voilà Allahum yattaqoon. Et pour qu'ils puissent craindre, s'ils veulent craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, du moment que ces hommes pieux-là ont compris l'importance d'établir la preuve et de chercher l'excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait que on a ordonné le bien, on a interdit le mal et on a rempli notre devoir et notre responsabilité. Parce que, il y a des gens aujourd'hui qui disent ça. Qui agissent de cette manière encore aujourd'hui, comme les gens de Bani Israël. Ils disent, mais pourquoi vous perdez votre temps à parler avec ces gens-là? Leur dire qu'est-ce qui est obligatoire et leur interdire le mal. De toute façon, ils n'écoutent même pas. Ils ne vont jamais changer. Il y a des gens qui pensent comme ça et qui disent ça. Et donc, ils veulent qu'on se taise et qu'on cesse d'ordonner le bien et qu'on cesse d'interdire le mal. Et ça, c'est très dangereux, c'est très grave en fait. Hein? Et à la fin, ils ont été punis, ceux-là, avec les autres qui faisaient le péché. Hein? Et il mentionne le verset 163 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et demande au sujet de la ville où les gens transgressaient le jour du sabbat. Parce que le jour du sabbat, les poissons venaient. Et ce jour-là, ils n'ont pas le droit de pêcher. Donc ils étaient frustrés de voir que les poissons venaient ce jour-là. Tandis que le reste de la semaine, quand ils n'avaient pas de sabbat, quand ils pouvaient pêcher, les poissons ne venaient pas. Alors ils ont utilisé une ruse. Parce que les juifs, ce sont des gens qui aiment la ruse. Ils ont mis un filet pour essayer de pêcher. Ils ont dit, on ne va pas pêcher, mais on va mettre un filet pour attraper tous les poissons de ce jour-là. Hein? Et donc ça c'est une de leurs ruses pour essayer de contourner les interdictions divines. Eh bien, ça ça c'était un test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont échoué ce test. Et le cheikh il dit, « اعتدوا في يوم السبت, يوم السبت لصيد الحيتان وقد نهاهم الله عنه لما احتالوا عليه بوضع الشباك الذي تمسكه لهم أي يوم الأحد ثم يأخذونه يوم الأحد يظنون أنهم لم يعتدوا على حرمات الله ويوم السبت تكثر فيه الحيتان فتغريهم بالصيد ابتلاء وامتحانا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ولما لم يقبلوا النصيحة أنجى الله الذين نهوهم وأهلك المعتدين قال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلم ينجوا إلا الذين أنكروا المنكر الشيخ الزي comme on a dit, ils transgressaient. Ils ont utilisé cette ruse du filet pour attraper les poissons. Et dans le verset 64, Allah dit, il y a un groupe parmi eux qui ont dit, pourquoi vous exhortez ces gens-là alors que Allah va les châtier, va les punir de toute façon d'un dur châtiment. Ils ont répondu, les gens qui étaient pieux et qui ordonnaient le bien et qui interdisaient le mal, ils ont dit, c'est pour avoir une excuse auprès de notre Seigneur et pour qu'ils puissent craindre. Si parmi eux il y en a qui sont sincères, ils vont accepter la vérité. Et toi, ton obligation et ton devoir, c'est uniquement de transmettre le message. Est-ce que les gens vont accepter? Est-ce que les gens vont pas accepter? Ça, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est que tu dis le message aux gens. Celui qui a un bon cœur, celui qui est sincère, cette nasiha, ce bon conseil va rentrer dans son cœur. Et il va suivre la vérité. Celui qui n'aime pas la vérité, qui n'est pas sincère, il va se détourner, mais ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de transmettre le message et de dire aux gens la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas leur cacher la vérité. Tu dis, ah mais ils ne vont pas comprendre ou ils ne vont pas suivre. Qui t'a dit qu'ils ne vont pas comprendre et qu'ils ne vont pas suivre? Celui à qui Allah veut du bien va suivre le bien. Et donc, il ne faut pas cacher la vérité. Il faut ordonner le bien et interdire le mal. Et lorsque le cheikh il dit, وَلَمَّا لَمْ يَقْبَلُوا النَّصِيحَ donc les gens qui ordonnaient le bien et qui interdisaient le mal sont allés voir les gens et ils leur ont dit cessez de mettre les filets, vous transgressez l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ils n'ont pas accepté le conseil. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a tous fait périr. Et il a fait périr avec eux ceux qui voulaient empêcher ceux-là d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Même si en eux-mêmes ils étaient bons et ils ne faisaient pas le mal, mais le fait qu'ils n'ordonnaient pas le bien et qu'ils n'interdisaient pas le mal aux autres, ils ont été calculés parmi ceux qui faisaient le mal aussi. Et ça, ça nous indique qu'on peut être des gens qui, on peut être parmi les gens du mal par complicité à cause de notre silence. Parfois. Et c'est très dangereux. Parfois, des fois, tu fais pas de shirk toi-même. Mais tu défends les gens qui le font. Et tu te mets en colère pour eux, pour défendre leur shirk. Alors dans ce cas-là, tu es avec eux. Et parfois, tu n'es pas toi-même, tu ne fais pas de bid'a toi-même. Tu ne fais aucune bid'a. Mais tu te fâches et tu te mets en colère pour les gens de bid'a quand on les critique, et tu les défends dans leur bid'a. Alors tu es complice avec eux, dans leur péché et dans leur contradiction de la sunna. Donc fais attention de ne pas être dans le péché, par complicité indirecte. Hein? Tu vois les gens qui font le péché, qui désobéissent à Allah, et tu ne leur interdis pas de le faire, ça c'est dangereux. Et donc, le verset 165 dans Surat Al-A'raf, Allah dit, et on a sauvé ceux qui interdisaient le mal parmi eux, et on a attrapé hein, ceux qui faisaient l'injustice par un châtiment, à cause de ce qu'ils faisaient comme perversité, comme désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici, mais juste avant de terminer, il faut juste comprendre une chose très importante à propos de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. C'est que l'interdiction du mal et l'ordonnance du bien doit être faite avec science. La personne qui ordonne le bien doit savoir que ce qu'il ordonne est un bien, avec les preuves de la charia. Et lorsqu'il interdit un mal, il doit savoir que ce mal est, est interdit avec les preuves, et il doit avoir la connaissance de ce qu'il interdit. Deuxièmement, il doit avoir de la douceur. Il doit faire preuve de douceur lorsqu'il interdit le mal et qu'il ordonne de bien. Il ne doit pas agir avec violence et agressivité envers les gens. Hein? Parce que sinon, il va faire plus de mal que de bien. De même qu'il ne doit pas interdire un mal s'il pense que le mal qui va s'en suivre, par conséquence, va être plus grand que le mal qu'il veut interdire. Donc il faut utiliser la sagesse pour voir les conséquences de nos actions et de nos paroles dans l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Hein? Et donc il faut la sagesse, il faut la science, et il y a beaucoup d'autres conditions aussi qu'on peut pas, on peut pas rentrer plus que ça en détail à ce moment, mais quand même c'est important de savoir que il y a des détails sur toutes ces questions qu'on vient de mentionner. Mais c'était juste un rappel pour nous tous, pour nous faire comprendre l'importance de s'accrocher à ces principes-là. Si on s'accroche à ça, Inch'Allah, on va être correct, on va être bien. On aura le salut dans cette vie et dans l'au-delà. Et on va être capable de ramener cette Ummah à son, là où elle devrait être. Et il ne faut pas se sous-estimer. Et il ne faut pas se dénigrer soi-même, ou dire qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas à la hauteur. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est capable de faire des grandes choses. Mais il faut avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut s'en remettre à Allah et respecter ce qu'il nous ordonne. Et on aura le succès dans cette vie, dans l'au-delà. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين.